Nous allons commencer, comme prévu, là, très vite, la table ronde du matin, réunissant donc les auteurs invités et présents, que je remercie encore infiniment. Donc, il sera question de plus de la vie culturelle, la vie littéraire, la vie artistique, à partir des positions et des points de vue de chacun au Liban. Voilà, la table ronde étant animée donc par Cathy Baron. Je vous invite à vous installer à la table en vous remerciant encore très très vivement.
Bonjour à tous pour cette dernière journée. Alors, donc le thème, la conversation que nous allons avoir est à propos de la vie littéraire et artistique à Beyrouth. Je dis à Beyrouth, c'est un lapsus intéressant parce que en fait c'est au Liban. Mais les conversations qu'on a eues les uns et les autres, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence importante entre Beyrouth et le reste du Liban. Et on va pouvoir en parler. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message et une invitation qui était un peu triste, qui m'arrivait de Beyrouth. Il s'agissait de la fermeture d'une librairie. Une librairie qui s'appelle El Bourge, qui a été créée il y a une dizaine d'années par plusieurs personnes, dont Michel Chouéry, qui animait cette librairie, et librairie à laquelle on était tous très attachés, qui était dans le centre-ville de Beyrouth, et qui proposait, comme toutes les librairies à Beyrouth, des livres dans plusieurs langues. Et évidemment, la littérature française et francophone libanaise était très très représentée. La fermeture d'une librairie, c'est toujours un moment triste, c'est toujours un moment qui pose question. Et je me suis dit, bon, que devient la vie littéraire à Beyrouth et au Liban après la fermeture d'une librairie ? Est-ce que vous avez été informés, vous, les auteurs, de la fermeture de cette librairie ? Est-ce qu'elle vous a étonné ? Et peut-être vous, en tant qu'auteur, vous habitez au Liban, quelle relation vous entretenez avec votre libraire, avec vos libraires ? Est-ce que... Alors, en France, souvent, l'écrivain, il a son libraire préféré. Il a une histoire avec un libraire. Et puis, c'est vrai que la complicité entre le libraire et l'auteur est importante. C'est l'éditeur souvent qui fait le lien, et qu'il peut y avoir même un attachement affectif, un soutien mutuel, et on sait que c'est important dans la vie du livre. Donc si vous voulez nous en dire plus sur ces liens peut-être que vous avez, et peut-être avec des libraires français aussi, comment vous et puis on en viendra peu à peu à la vie du livre au Liban. Voilà.
Bonjour. À propos de librairie à Beyrouth, il faut constater d'abord que les librairies francophones sont mieux structurées, des adresses disponibles avec parfois vraiment des librairies presque parisiennes. Je pense à Antoine, à l'Oriental, Le Point, Stéphane et El Bourge. On a ces 5 ou 6 librairies francophones, surtout que Antoine est une chaîne où à Beyrouth même et dans le Grand Beyrouth, il y a 5 ou 6 librairies Antoine. On peut y trouver sur l'étalage toutes les dernières nouveautés françaises et internationales. C'est de très bonnes librairies. La fermeture de El Bourge est venu dans un contexte quand même de déprime du lieu, du centre commercial où s'est établie cette librairie, qui est le centre commercial de Beyrouth refait par la société Solidaire, qui, dans cet espace-là, juste en se promenant, on constate qu'il y a plein de commerces fermés, de boutiques fermées. Il y a eu un recul de ce lieu une stagnation qui sans doute a provoqué aussi la fermeture de cette librairie, en plus, bien sûr, du recul du livre, c'est ce qui est mondial comme, comme phénomène. On s'était beaucoup attaché à cette librairie, surtout avec un libraire ami des livres et des écrivains, Michel Chouaïri. Mais je ne crois pas que c'est une grande alarme en ce qui concerne la présence du livre français au Liban. Bien sûr, c'est une perte, on a tous exprimé notre ce qu'il fallait. Mais voilà, elle est mal placée, je crois aussi, en plus. Pour le reste, les libraires reconnaissent les écrivains locaux qui écrivent en français ou qui ont des livres traduits en français. Et des fois, ils organisent des rencontres, des signatures, voilà, pour rester en vie, comme partout. Mais c'est surtout Beyrouth. En dehors de Beyrouth, à Tripoli, il y a une branche de la librairie Antoine que je connais de près, parce que j'y suis. Et je crois qu'elle est quand même subventionnée par les autres branches, parce que là, ça va pas bien. Et pour les autres régions aussi, c'est Beyrouth qui est la belle façade de la francophonie actuellement. Voilà.
Et en ce qui concerne la littérature arabophone, il y a donc des librairies spécialisées?
Justement, il y a des librairies spécialisées, mais il faut les chercher. Il n'y a pas d'adresse. Il y a une librairie qui s'appelle Bissan, qui est. Bon, Iman peut-être le connaît mieux que moi, mais vraiment, les librairies francophones sont plus visibles. Voilà. Et les adresses arabes existent, bien sûr, mais il faut les chercher, il faut aller dans certains lieux. Une librairie, il y en a une seule que je connais, où on peut tout trouver. Voilà. C'est ce que j'entends par une librairie générale de l'arabe, qui s'appelle la librairie Bissan, qui est dans une rue du côté de Hamra. Là, je crois qu'on trouve tout. Pour les autres librairies, la proposition de livres arabes n'est pas toujours complète. C'est pour cela que, voilà, on va chez le grossier, comme dans le supermarché, quoi. On va chez celui où on peut tout trouver. Oui.
Bonjour. Et si tu me permets, Cathy, j'aime bien donner une image un peu globale à propos de la culture à Beyrouth. Et puis, je entre dans les détails. Est-ce que c'est possible?
Là, on parle du livre uniquement, là, pour l'instant.
Je vais continuer, c'est que...
On ne parle pas que du livre, on va parler
d'accord,
tout.
Pas de
tout,
problème.
Mais on commence par le livre, hein, parce que c'est la littérature qui nous intéresse, et puis on pourra...
On revient à ce que j'ai proposé après, pas de problème. Et pour continuer, c'est que Japour était en train de lire, de dire, je vois les choses un peu différemment. Par exemple, Antoine pouvait pas continuer, sauf quand il a fait entrer des livres arabes dans la librairie, parce que les lecteurs français, ils deviennent moins en moins au Liban. Antoine, maintenant, quand on entre à Antoine, on voit aussi des livres sur l'histoire de l'islam, sur l'histoire des pays arabes et tout, sur les pays du Golfe, l'histoire de régime du Golfe, on voit tout. Donc, pour que les librairies survivent, il faut qu'il ouvre la spécialité de librairie pour être plus riche. Et, il y a aussi pas seulement Bessin, il y a beaucoup librairies qui sont en même temps publishing, éditeurs, comme Nashirun, comme Al-Furat, comme Al-Furat Wanil. Ils ont des librairies, en même temps, ils sont des éditeurs. Et je vois que le livre arabe, il est toujours préféré d'être publié à Beyrouth, comme d'habitude, malgré toutes les crises que la publication est en train de passer maintenant. Mais c'est un rêve, c'est toujours un rêve pour l'écrivain arabe, même qui vient de l'Arabie Saoudite où il y a beaucoup d'argent. C'est un rêve pour les écrivains de publier à Beyrouth. Beyrouth reste toujours le phare de livres jusqu'à maintenant.
Donc, tu souhaitais nous dresser un panorama de la vie culturelle à Beyrouth.
Oui, parce que je pense que le livre, c'est une partie d'une image plus grand, plus éventail, on dit. Par exemple, quand je pense de Beyrouth, quand je pense de votre question et le thème de notre rencontre ce matin, je pense d'abord de comment Beyrouth a été renouvelée après la guerre. Beyrouth, il y avait des milliards de dollars qui étaient mis au centre-ville pour récupérer les églises, les mosquées, les restaurants, les immeubles. Mais jusqu'à maintenant, le théâtre national, elle est là-bas, détruit. Elle est parmi les immeubles que chaque appartement coûte 4 millions de dollars. À côté, il y a le théâtre national qui n'a pas été touché jusqu'à maintenant. Elle était détruite. On n'a pas un théâtre national. Mais grâce aux initiatives individuelles au Liban, parce qu'on n'a jamais, avait un État dans le sens moderne. Donc ce sont les individus qui font les belles choses. Il y a beaucoup d'associations qui ont ouvert des petits théâtres ailleurs, qui font de jolis, qui performent de très jolies pièces de théâtre. Aussi pour les bibliothèques nationales. On a un projet de renouveler la bibliothèque nationale depuis 20 ans. Je ne sais pas si elle va être vraiment ouverte comme toutes les bibliothèques nationales au monde.
Mais il y a plusieurs bibliothèques à Beyrouth qui sont très vivantes.
Oui. Associations.
Ce sont des associations, oui, financées en partie par l'Europe, d'ailleurs.
Le suspension, on dit, non pas suspension. Subvention, c'est une histoire qu'il faut vraiment parler après, parce que c'est quelque chose de très vital à Beyrouth. Et on peut peut-être parler après, si vous voulez.
On parlera du finance après.
Oui. Et encore une chose, quand je pense de Beyrouth, je vais ouvrir tous ces thèmes, peut-être un peu. Je pense aussi de toutes les pages culturelles. Maintenant, dans une année, trois pages culturelles ont été supprimées dans les journaux. Les journaux sont fondés par des pays régionaux. Mais toujours j'ai le cœur I'm happy. Je suis heureuse qu'il y a des gens comme nous, comme des individus qui font des associations pour continuer.
La difficulté de toutes ces initiatives privées, finalement, c'est qu'il n'y a pas de vision globale. Chez nous, on dirait une politique culturelle. C'est-à-dire qu'on fait des choix artistiques qui correspondent à un territoire. Là, ce sont des initiatives privées de personnes qui sont des mécènes, finalement, hein, et qui sont très belles, en effet. On a des musées là qui ont ouvert récemment, des anciennes maisons, palais qui sont remis en état et dont les collections sont retrouvées. Mais il n'y a pas de vision globale, me semble-t-il. Enfin, bon, vous pouvez me démentir, mais le ministère de la Culture, tu me disais qu'il qui me disait qu'il a à peine 200 000 dollars. Hein, vous voyez, par rapport à l'euro, c'est à peu près pareil aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire une politique culturelle avec ça. Donc, ça, c'est une difficulté. Cependant, il y a une vie culturelle très forte. Avec ces initiatives, des artistes qui se battent. Alors évidemment, on connaît ceux qui sont connus, qui sont devant de la scène, mais il y a aussi des artistes plus comme chez nous, plus confidentiels et qui font aussi cette vie culturelle. Moi, quand je pense à vie culturelle, je pense aussi à se retrouver, comme nous aujourd'hui, comme autour du banquet, comme pas beaucoup de festivals dans le monde ou de rencontres en petits groupes ou en foule plus importante. C'est ça qui est important. Donc, peut-être qu'on peut essayer de voir aussi quelles sont ces histoires, ces lieux qui rassemblent des personnes, un public. Est-ce qu'il y a un public ? Au Liban, est-ce qu'il y a un public peut-être si... est-ce que Diane, tu penses qu'il y a un public, qu'il y a une attente en littérature, en festival, en théâtre?
Je ne sais pas si je peux maintenant parler de ça, mais je peux parler de mon expérience parce que j'ai un livre qui a été publié donc au Liban et un qui a été publié à Paris, et c'est vrai que l'expérience ressentie était complètement différente. Dans le sens où donc mon premier livre qui a été publié au Liban, je dois dire qu'au niveau du public, c'est surtout mes amis, mes connaissances, les amis de mes parents qui sont venus, qui ont acheté chacun 10 copies. Et puis, j'ai eu quelques articles avec que des compliments. Donc j'ai senti que j'ai souffert d'un manque de critiques. Et de public autre que des gens que je connaissais déjà. Et donc quand je pense à vie littéraire, intellectuelle et artistique, je pense aussi à ce qu'un livre publié peut apporter par la suite. Je m'attendais aussi à collaborer avec d'autres personnes, à faire des choses, par exemple que ce premier livre m'apporte, je puisse faire plus de rencontres. J'avais, je sais pas moi, envie de développer des scénarios de films ou de monter des projets. Et j'ai eu aussi du mal à collaborer avec des jeunes de mon âge parce que j'ai senti que, je pense que ça rentre dans le cadre de la vie littéraire et artistique, mais j'ai senti par exemple que c'est plus dans la mentalité au Liban d'être dans le court terme que de se projeter dans le long terme. Et tout projet artistique, évidemment, demande du temps et beaucoup de maturation. Et en plus, c'est pas sûr qu'on va gagner quoi que ce soit. En fait, je pense que ni on gagne et probablement on perd même au niveau financier. Et bon, en général, les Libanais aiment bien gagner tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et je généralise. Mais en parlant, donc, en essayant de faire des choses avec des amis, c'était la chose récurrente qui revenait souvent. Et ensuite, peut-être aussi le manque de souffle, parce que justement, on a tendance à être dans cette immédiateté liée à l'instabilité, donc cette envie de vivre au jour le jour, qui fait que oui, se projeter dans un projet artistique qui va prendre 1 an, 2 ans, c'est pas non plus la passion de tout le monde au Liban. Et par contre, bon, hier j'ai assez tapé sur Paris, mais je dois dire que pour ça, c'est complètement différent, dans le sens que mon expérience de livres publiés à Paris n'a absolument rien à voir. Tout d'un coup, j'avais un public que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a beaucoup apporté de voir que j'avais pu toucher des gens qui ne viennent pas acheter mon livre juste pour faire plaisir à ma famille ou comme ça. Et en plus, il y avait une plateforme critique, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ont critiqué mes travaux, donc j'ai pu être confrontée à la réalité, et moi ça m'a fait énormément de bien, parce que je ne vois pas comment je peux m'améliorer si on me dit c'est bien tout le temps. J'aime être confrontée aux choses. Et à Paris, j'ai pu être confrontée aux choses. Et il y a pu aussi y avoir des articles plus variés dans la presse. Il y a ce qu'on appelle vraiment une plateforme critique. Il y a une possibilité d'aller à l'encontre du public. Donc, en gros, voilà, pour là, Paris, ça allait bien. Mais au Liban, quand je repense au Liban, je me sentais vraiment seule dans cette vie littéraire et artistique. Alors peut-être que moi, j'ai été me fourrer dans une bulle, c'est possible. Ou peut-être que les circonstances m'ont poussé à ce que je me fourre dans une bulle. Mais en tout cas, c'était vraiment ça. Au Liban, je me sentais très seule. Et à Paris, à ce niveau-là, beaucoup moins seule. Je sens que je peux partager avec des gens. Il y a plus de compréhension à ce niveau-là. Voilà.
Merci, Diane. Est-ce que les autres auteurs, Iman, Jabour, Ramda, est-ce que cette idée de court terme et de manque de critique, est-ce que vous le ressentez à Beyrouth? La critique littéraire, elle existe au Liban?
Mais bien sûr, elle existe. Diane avait écrit son premier livre et ça fonctionne toujours comme ça. Premier livre, c'est les amis, les parents. On achète par complaisance, mais on ne connaît pas, on n'a pas encore lu qui va venir. Cette signature amicale est une étape incontournable pour tous les auteurs, du moins au Liban. Il y en a même qui arrivent à écouler pendant leur première signature amicale quelques 300 ou 400 exemplaires. Comme elle a dit, il y en a
500.
Vous avez fait 500, voilà. Il y en a qui achètent pour faire plaisir, qui disent, voilà. On ne va pas accepter qu'ils nous fassent un chèque, mais ils le font d'une manière ou d'une autre. 50 exemplaires, yallah. Ben, c'est ça le chèque. Il les dépose chez lui, ben, c'est pas ce qu'il en fait.
Ils ont gardé pour me les donner pour plus tard.
Mais pourquoi vous êtes en colère? Ils sont gentils.
Mais oui, c'est très mignon.
Et puis après, vous volerez de vos ailes. Ils vous aident comme ça à sentir quelque chose, une sorte de satisfaction, avoir vendu quelques copies. Et puis, voilà. Et puis après, il y a deux choses différentes. Quand on écrit en français, on a peut-être moins d'écho au Liban que quand on écrit en arabe. Moi, j'ai l'expérience arabe. Eh bien, j'ai plein de retours. J'ai toujours eu des retours, des revues de livres, pas seulement au Liban, mais dans les... Et c'est ce qui manque à l'écriture en français. Quand on écrit en arabe au Liban, on reçoit des critiques du Golfe, du Caire, du Maroc, de partout. L'arabité culturelle est vraiment la seule réalité arabe actuellement, la seule unité arabe. C'est une même langue, c'est un réseau rehaussé par l'internet, surtout les publications en ligne, les blogs et tout ça fonctionne pour l'arabe. Mais écrire en français à Beyrouth, ça va nécessairement tomber dans une petite casserole. Si le Nahar trouve un journaliste qui va lire le roman en français et écrire un article en arabe, ça peut aller. Si Skander Habash, qui n'est pas là, le fait pour le Saphir parce qu'il est francophone, des fois ou non. Sinon, c'est l'Orient le jour ou l'Orient littéraire qui va se charger de cela, avec peut-être une revue, un magazine ou deux en français. Donc nécessairement, il y a c'est limité. Mais la critique existe. Il y a même des polémiques qui peuvent s'instaurer, de plusieurs articles en série, des attaques, des retours, des mises au point. Oui, je crois que Beyrouth, comme l'a dit Iman, reste une capitale du livre arabe. Et toujours, les meilleures maisons d'édition sont toujours à Beyrouth. Pour le roman, par exemple, arabe, on sait bien qu'actuellement, s'il faut se faire publier dans une maison d'édition c'est As-Saqi, Al-Adab, bon, Al-Nahar, il n'y en a plus, Riyad al-Rayis, et au Caire, deux ou trois maisons similaires, c'est tout. C'est les meilleures maisons d'édition qui, en arabe. La moitié est à Beyrouth. Et bien voilà, je crois que le livre à Beyrouth, ça marche. Ça marche, oui. On n'a pas à nous plaindre. Et surtout avec cette floraison, cette inflation du genre romanesque.
Alors peut-être évoquer, en ce qui concerne les revues, cette revue Pictorama, hein, dont va nous parler Rhonda, et puis on va pouvoir aussi évoquer le théâtre, et puis aussi le festival de Baalbek. Hein, le festival de Baalbek, je pense qu'il est connu dans le monde entier, on en a forcément au moins entendu parler, et vous nous en direz quelques mots. Alors d'abord Pictorama, hein, revue culturelle et artistique. Rhonda, alors, la création de cette revue, elle est annuelle. Voilà. Oui, quelle initiative? Là, c'est l'exemplaire que j'ai en main, c'est consacré au théâtre, mais vous avez aussi d'autres thèmes.
Oui. Alors, du coup, Pictorama, c'est une revue annuelle, francophone, gracieuse, qui est en fait publiée par la Fondation RAM, qui est une fondation d'un grand, grand mécène au Liban qui s'appelle Robert Matta. Et en fait, moi, j'ai publié la biographie de son papa, l'ingénieur Alfred Matta. Et suite à ça, on a décidé, dans le cadre de la Fondation RAM, qui œuvre pour l'art et la culture au Liban et au-delà des frontières, je vous expliquerai pourquoi ensuite et comment, on a créé ce magazine donc annuel. Au-delà du simple bulletin d'information, on décrit en fait, on décrypte l'actualité libanaise par le prisme des arts et de la culture. Voilà. Donc c'est un MOOC en fait. Hein. Le genre éditorial, c'est un objet hybride. C'est toujours hybride avec moi quand même, pas avec le roman essai. Voilà. Donc c'est une contraction de magazine et book. Hein. Je vous renvoie à 21e qui a un grand succès en France. Et du coup, c'est un format de publication entre le livre, entre le magazine, caractérisé par un rythme de publication lent, du journalisme d'investigation et non pas d'actualité et aucune publicité. Voilà. On a une version imprimée que vous pourrez prendre à la sortie si ça vous intéresse, qui est offerte. On a une version en ligne totalement gratuite d'accès, www.pictoramac.com. On distribue les exemplaires au mois de décembre aux amis de la Fondation et aussi en libre accès dans tous les instituts français du Liban. On est très soutenus par l'Institut français. Le Beyrouth Art Fair, le musée sur Soc, le festival du film d'art de Beyrouth aussi. Voilà. Et ce que je peux vous dire de la revue. Donc le numéro que vous avez entre les mains, c'est le numéro 2, qui porte sur le théâtre libanais. On a un dossier phare aussi qui revient chaque année, c'est la place de l'art au Liban, évidemment avec des intervenants différents, parce que la question m'a été posée. Alors, ce que je peux vous dire quand même sur le théâtre au Liban, des choses importantes pour comprendre la scène classique et contemporaine théâtrale libanaise aujourd'hui, il faut faire juste un petit retour aux sources et aux origines de cette activité qui connaît un essor remarquable dans les années 60, donc l'âge d'or du Liban. On a la troupe du théâtre moderne, dirigée par Mounir Abou Abbes, qui offre son premier rôle au dramaturge en devenir Raymond Gebara. Vous avez le théâtre de Beyrouth, avec des metteurs en scène, comme Roger Assaf, qui a quand même gagné le Lion d'or à...
Ce sont des troupes professionnelles ou amateurs?
Ce sont des troupes professionnelles. Professionnelles, oui, absolument. Donc on a Roger Assaf qui a gagné le Lion d'or à Venise, on a Berge Fazian, on a un théâtre populaire aussi avec Chouchou, par exemple. On a l'université libanaise qui inaugure, donc à peu près à la même époque, l'Académie d'art dramatique avec Antoine Moultaka qui est le responsable. Puis on a la guerre. Évidemment, on a l'explosion du mouvement théâtral novateur. Mais on a quand même des formes de création qui subsistent, comme le théâtre de Chouchou, on en a parlé, qui est un théâtre populaire, les œuvres des frères Rahbani, qui font des films, de la musique, des opérettes, et les comédies musicales de Roméo Lahoud, qui va beaucoup travailler avec Baalbek ensuite.
Et ils se produisent où? Parce que Iman disait que le théâtre...
Je vais y venir. Voilà. C'est juste pour comprendre un peu le... Voilà. Donc le théâtre, le Liban d'après-guerre, donc offre de grandes productions culturelles. Alors là, c'est important, fruit d'un travail souvent individuel ou résultats d'actions de groupes indépendants. Donc, on a le Hakawati, le conteur, qui connaît un grand succès dans notre région, qui est initié par Roger Assaf et Nidal Ashar, et qui a été repris par Rafir Ali Ahmad, qui a fait des films aussi. Bon, là, j'alerte sur le manque de financement, c'est très grave, le manque de structure qui conduit justement à exercer le théâtre de manière solitaire au Liban. Donc, on a de nombreuses salles qui ont fermé, Iman l'a rappelé, on a le théâtre de Beyrouth, qui était l'un des seuls à faire une vraie programmation, celui de Ayn Rice, qui s'est vu détruit, politique du dollar contre celui de la création. On a des salles dans Beyrouth, le salle du Festival de Baalbek, du théâtre Chouchou, du Phénicia, de l'Élysée, du Martinez, et puis la liste est longue, qui ont fermé. Donc, c'est des chapes qui plombent un peu la création contemporaine. Bon, on a quelque chose de très important aussi. On a un trésor à Beyrouth, l'un des plus importants théâtres du monde arabe, construit par les Français. C'est le grand théâtre près de la statue Riyad al-Salah au centre-ville. Et l'amphithéâtre intérieur, c'est une petite copie de l'opéra de Garnier de Paris, simplement. Donc c'est fermé et les professionnels du milieu espèrent une réintégration dans le domaine public, puisque c'est privé, c'est solidaire. Voilà. Donc on a aussi un grand souci avec le théâtre, c'est l'instabilité dont ont parlé mes collègues ces deux jours, l'instabilité du pays qui défavorise l'émergence d'une vision à long terme dans le théâtre libanais. Donc où se joue le théâtre libanais? Dans des petites salles de quartier. On a des petites salles de quartier, c'est souvent des lieux de récupération, des anciens cinémas par exemple. On a deux grands festivals, le festival de Baalbek et de Beit Eddin, qui s'efforcent quand même de programmer chaque année une pièce de théâtre en arabe, parfois en français. Et là j'ajoute que le festival international de Baalbek, c'est quand même le plus vieux festival au Moyen-Orient, qui a quand même 60 ans d'année, en fait c'est 60 ans d'existence, qui est en fait la survie du festival de Baalbek atteste d'une résilience et d'un courage, puisqu'on a chaque année, bon, je suis membre dans l'association, on a chaque année beaucoup de mal à monter la programmation annuelle, donc estivale, puisque c'est Baalbek, donc là, la plaine de la Beka, la situation sécuritaire est un peu aléatoire, on ne sait jamais si on va pouvoir jouer, si la programmation aura lieu sur le site, ou bien si on va délocaliser à Beyrouth. Donc il y a aussi le problème budgétaire, 33,3% du budget de chaque festival est pris en charge par l'État, mais c'est payé en général à entre 5 et 10 ans de retard, donc il y a des intérêts qui courent, voilà, bon, c'est très compliqué. Puis on a quelque chose de très important aussi, et ça je voudrais vraiment attirer votre attention avec beaucoup de fierté dessus. Donc on a une excellence internationale des arséniques libanais, qu'on a Wajd El Marwad, que tout le monde connaît, l'expatrié canado-libanais qui tire son épingle du jeu avec des outils de travail occidentaux, mais qui joue quand même chaque année à Beyrouth pratiquement, et ses thèmes, l'exil, l'obsession, qui sont très présents. On a le grand Rabir Mouré aussi, que j'aime beaucoup, qui lui a un style très axé sur la représentation et la perception du passé pour mieux justement saisir les complexes de la société actuelle. On a Carlo Shein aussi, l'Européen, qui brille sur les planches, mais qui vient aussi depuis deux ans chaque année monter un beau projet parfois francophone, parfois arabophone chez nous. On a Mireille Marlouf aussi, et puis après on a des associations théâtrales bien implantées comme Shams, comme Zoukak, qui offrent écoute et expertise aux professionnels du théâtre, mais aussi aux amateurs qui souhaitent se sensibiliser un peu à cette discipline. Voilà. Et on a enfin un théâtre francophone qui est très puissant à Beyrouth, qui peut être représenté par des gens comme Nadine Mokdessi, comme Joël Zrek, qui viennent plusieurs fois par an en France, dans les festivals, en province, dans la capitale, pour sélectionner vraiment les meilleures pièces et les faire donc les inviter à Beyrouth, et donc parfois avec le soutien de l'Institut français. Du coup, la langue de Molière sur l'art scénique est quand même très dynamique. Ça, c'est important. Voilà. Alors, vous trouverez dans Pictoram une interview du ministre de la Culture qui un peu s'exprime sur le statut de l'artiste, l'avenir de la discipline. Et au-delà de ça, qui explique quand même, c'est important, c'est que C'est vrai que la structure culturelle libanaise est soutenue par des mécènes, mais ils ont d'autant plus de... C'est d'autant plus important qu'ils n'ont aucun avantage à le faire. Il n'y a pas de défiscalisation, il n'y a pas d'encouragement étatique à aider le secteur artistique. Donc ils le font parce que, bon, évidemment, ça leur amène une bonne image. Ici, on a la même chose, Pinault, Arnaud, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'avantage numéraire à le faire. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà, et vous trouverez donc dans la deuxième partie le dossier Place de l'Art, le panorama de nos musées privés et puis nos galeries qui sont aussi très, très importantes. Voilà. Mais en deux mots, je dirais que nous, on se place vraiment dans le courant littéraire, dans le courant du journalisme narratif et que c'est un peu un objet de collection, mais à partager pour se poser une fois par an ensemble et voir où en est l'état de, artistique libanais, l'état de création. Voilà.
Merci Rhonda. Il y a à Beyrouth aussi un musée, le musée de Beyrouth. C'est un endroit que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous partagez le musée national, oui. C'est un très bel endroit si vous allez à Beyrouth. Il faut y aller. Il est très beau, il y a de très belles pièces. On y voit bien l'histoire de toute cette région depuis très longtemps. Et il y a une histoire émouvante. Pendant la guerre, les pièces, et les grosses pièces particulièrement, ont été emmurées, bétonnées, afin qu'elles ne soient pas atteintes par la guerre, par des bombes. Et puis, on voit un petit film à l'entrée du musée et on nous raconte l'histoire de ce musée et particulièrement comment, pendant la guerre, les pièces ont été protégées. Alors, certaines ont été inondées, mais on a une image qui, moi, à chaque fois, me fait pleurer. Parce qu'elle est vraiment l'image de la sortie de cette guerre, c'est-à-dire que des ouvriers cassent ce béton et s'ouvre tout d'un coup, et on voit la pièce, la sculpture très ancienne qui émerge.
C'est une initiative personnelle du directeur du musée.
Oui. Mais au moment de la guerre, ils ont décidé, le personnel, le directeur a décidé de cacher et d'emmurer ça. Donc c'est un très beau musée, vraiment on y passe du temps. À chaque fois que j'y vais, il y a des groupes d'enfants d'ailleurs, il est très visité et voilà, c'est un des lieux de culture.
Un petit scoop très excitant, c'est que dans le courant de cette année, on va avoir l'inauguration d'un sous-sol dédié aux rites funéraires dans le musée national de Beyrouth, grâce à une subvention de l'ambassade d'Italie, avec notamment une copie de la tombe de Tyr et puis des momies retrouvées dans une vallée de Kadisha au XIIIe siècle, avec notamment des pépites de raisin qu'ils ont. Et voilà, une grande collection de sarcophages. Enfin voilà, c'est dans le courant de l'année 2016. Voilà.
Il y a d'autres musées quand même.
Oui, alors,
il y a le musée. Oui, je sais. Mais cette question de mécénat, de financement privé domine tout.
C'est vrai.
Il y a le musée national qui relève de l'État et que de temps en temps on essaie de développer. Mais il y a le musée Sursaux qui est plus moderne, qui est un don d'une famille. D'une riche famille libanaise à la municipalité de Beyrouth. Et il y a un comité qui le gère, qui a été refondé maintenant, restauré. Il est formidable. Vraiment, c'est un grand musée à visiter. Une troisième possibilité, fondée sur le mécénat, mais qui sur le don de Oman, de la principauté d'Oman dans le Golfe, a promis, avec un don de millions de dollars pour créer un musée d'art contemporain dans le centre de Beyrouth. Ça viendra peut-être un jour. Tout est prêt, mais l'argent ne vient pas, je ne sais pas quoi. Il y a cela.
Alors, il y a là, j'allais venir justement sur l'art contemporain. Il y a une vie en matière d'art plastique et de photographie. Il y a énormément d'artistes qui émergent, et vous pouvez en citer quelques-uns dans les peintres et les sculpteurs, les photographes en particulier. Alors il y a un photographe dont on a parlé, c'est Samer Modad, photographe du monde arabe. Et dans les peintres, est-ce que vous pouvez nous citer quelques peintres? Il y a des galeries, hein, Beyrouth, on a pas mal de galeries.
Oui, des galeries.
Des peintres Non.
Bon, alors pour les peintres. Bon, pour les vidéastes et photographes, on a Ziad Antar qui est très collectionné aussi, qu'on peut voir ses œuvres au musée privé à Echti, qui a ouvert en octobre 2015. On a Akram Zaatari, qui est aussi vidéaste, qui est exposé à la Fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne, notamment. On a Roger Mkerzil, qui est un des plus grands photographes de la région, voilà, du Proche et du Moyen-Orient. Les sculpteurs, on a la dynastie Basbouz. Alors là, c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur les Basbouz. On a le père, le frère, le fils. Oui, ça, c'est incroyable, si tu veux dire quelques mots dessus. Facer Hanoun. Et puis, donc, en peinture, on a des grands maîtres. On a Ounsi, on a Sir, on a Harer, on en a tellement. On a Korm, notre éditeur, donc le grand-père, qui est un des grands peintres. On a des plasticiens. Enfin, donc, la scène émergente est établie et bien représentée, parce qu'on a 1800 pièces au ministère de la Culture, sculpture, installation, peinture, photographie, possédées par le ministère de la Culture, qui vont être exposées d'ici 5 ans dans le musée d'Apil, à côté du musée national. Donc un terrain leur a été offert par les prêtres. Et donc cette exposition, ce sera le musée d'art moderne et contemporain de la collection étatique. Voilà.
On a brossé rapidement les choses. Peut-être en revenir à la littérature, il y a quand même deux moments importants. Et si vous avez à voyager au Liban, ça peut être le moment d'y aller. C'est bon, pas forcément la plus belle saison, mais il peut y faire très chaud à ces moments-là. C'est le salon du livre francophone, donc à Beyrouth, qui a lieu fin octobre, début novembre, et le salon du livre arabophone, qui a lieu en décembre. Ce sont des moments importants où les auteurs se retrouvent, rencontrent aussi des auteurs venus de l'étranger, hein, francophones. Alors, c'est pareil, c'est soutenu par des... alors, le salon du livre francophone est soutenu par la France, vraiment très fortement, par l'Institut français. C'est organisé la plupart du temps, sauf il y a eu quelques années, c'était pas le cas, organisé par l'Institut français. Les libraires de Beyrouth, là, sont très sollicités. Et c'est un moment de rassemblement auquel on tient tous. Et puis, il y a le salon arabophone. Donc, bon, c'est vrai que moi, ça m'a toujours posé problème qu'il y ait ces deux salons. Dommage qu'il n'y en ait pas un seul, et que la littérature dans toutes les langues puisse être représentée ici et là. Alors, il y a aussi un festival de poésie qui est tout récent. Il y a eu une édition l'année dernière, soutenue aussi très fortement par l'Europe, où se retrouvaient des auteurs libanais et des auteurs de l'étranger. Là, c'était un très beau moment de partage aussi. Mais moi, dans mon expérience tout à fait personnelle, c'est vrai que par rapport à ce que disait Diane, je suis assez d'accord. C'est difficile de parler de quelque chose qu'on va mettre en place dans 1 ou 2 ans. C'est-à-dire moi j'ai toujours senti qu'il n'y avait pas de répondant. Et puis, par contre, 2-3 mois avant, si on a trouvé un peu d'argent, on dit bon, on va faire ça, et là c'est possible. Tout d'un coup, l'envie vient, ils se disent dans 2-3 mois c'est faisable, on peut faire ça. Dans 2 ans, on peut pas. Alors que c'est vrai que nous, quand on peut en parler à Dominique Bondu ici, hein, quand on prévoit nos festivals, nos rencontres, c'est 1 ou 2 ans avant, hein, qu'on peut. Donc c'est vrai que ce court terme, c'est un handicap, et en même temps c'est intéressant de voir comment en quelques semaines des choses peuvent se monter. Hein. Bon, après c'est sur la communication des fois que ça peut un peu pêcher. Voilà ce que je peux dire aussi de tout ça. Est-ce que en ce qui concerne... est-ce que vous avez créé, je pense, à Iman, le Pen Club, est-ce que là, il y a des choses possibles? Qu'est-ce qu'il en est des rapports entre les écrivains, la solidarité qu'il peut y avoir entre eux, ou au contraire, la concurrence qu'il peut y avoir entre eux, et puis l'envie de construire quelque chose?
Et tout ce que j'ai entendu donne l'impression que tout va bien au Liban, mais rien va bien au Liban. Et nous sommes comme une voiture qui a perdu le frein, mais quelquefois ça arrête parce que la route devient plate. Mais la direction, c'est en descendant. Et nous ne sommes pas une île. Nous sommes dans un monde arabe qui est en face d'un destin on ne sait pas où on y va. Et ça, ça a des conséquences sur notre pays. Mais nous, nous sommes des résistantes. We are resisting people. Oui, on est résistants. Chaque jour, on se lève, on sait qu'il faut résister quelque chose. Et ça donne le sens à notre vie et ça devient un mode de vie. En culture, en écriture, dans l'art, dans tout. Merci Randa que tu as donné une image optimiste parce que c'est comme ça que je veux voir mon pays tout le temps. Sinon, on ne peut pas continuer. J'ai oublié la question de Cathy. Excusez-moi. Avec toute cette crise, on a fondé Pen Club 2013 de faire quelque chose ensemble, les écrivains, mais aussi à cause de la crise. Maintenant, on travaille à Pen Club. Nous étions 35. Maintenant, nous sommes 7. Ça ne veut dire pas que les autres ont quitté Pen Club. Ils sont toujours là. Mais je crois que la foi de travail collectif, ça devient moins en moins de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble. Il n'y a pas de stimulation. Mais Pen Club continue. On a des petits projets qui ne sont pas très grands parce qu'aussi on souffre de financement, on souffre d'avoir des assistantes qui nous aident parce qu'à la fin, nous sommes des écrivains aussi. On écrit. On écrit, mais ce n'est pas l'écriture qui achète notre pain. Aussi, on a un autre travail pour vivre. Donc, c'est difficile, mais on jamais devient pessimiste. Jamais. C'est la situation.
Moi, je ne suis pas d'avis que les choses déclinent. Pas du tout. Si c'est les chiffres qui parlent, Beyrouth avant la guerre, avant 1975, et Beyrouth d'aujourd'hui, le Beyrouth d'aujourd'hui compte plus de théâtres, plus d'écrivains, plus de galeries, plus de peintres, plus de sculpteurs et tout ce qu'on veut, plus de gens qui inventent des spectacles. Je crois que la vie culturelle à Beyrouth va mieux qu'avant la guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une ville qui se prête à la culture, à l'art, et elle ne s'en prive pas. Je crois qu'il y a un agenda culturel que vous pouvez consulter, qui est bourré de rendez-vous, mais c'est une... C'est vraiment un périscope, un Beyrouthscope, mais très chargé. Les Libanais aiment se plaindre, bon, ça, oui. Ils sont entourés d'enfer, oui. La Syrie flambe, l'Irak, tout, partout. Ça peut jouer à l'inverse, en faveur de Beyrouth, et être un lieu de rassemblement de beaucoup de gens déplacés. Ça promet aussi pour Beyrouth un rôle dans la reconstruction de son environnement, de son entourage. Et je suis optimiste quelque part. Bon, on ne peut pas être optimiste tout azimut quand il y a une guerre meurtrière aussi qui détruit la Syrie juste à côté. Et nous avons tous les déplacés, nous avons l'implication du Hezbollah dans la guerre en Syrie qui peut se répercuter sur le Liban. Donc on a tous les facteurs risques, mais en même temps, Beyrouth culturellement et artistiquement, à mon avis, se porte mieux qu'avant. C'est tout.
Je suis entièrement d'accord en fait avec Jabour. Je voulais vous dire que vous pouvez consulter l'agenda culturel, c'est www.agendaculturel.com. Parfois il y a un / bay, B-E-Y, Beyrouth, mais parfois non. Et en fait, ça montre la multitude de rendez-vous, d'événements culturels qu'on a dans la semaine. On passe un soir par semaine au théâtre, un autre dans une salle pour un spectacle de danse contemporaine. On a des saisons musicales de musique savante au Liban, c'est important de le dire aussi. Donc la vie culturelle, artistique, tant et si bien qu'on ait quelques outils pour pouvoir faire le tri dans tous ces événements et toutes ces choses qu'on nous propose toute la semaine. Vraiment, c'est d'une richesse, c'est d'un niveau aussi. On a vraiment beaucoup de chance. Et je voulais juste rebondir sur une petite chose. En fait, remettre les chiffres un petit peu à plat, parce que c'est très important, et je pense que ça va vous surprendre aussi. Je comprends, et je ne comprends pas ce que disait Diane. Je comprends par rapport au fait qu'en fait, nous, toutes les deux, on a publié notre premier roman francophone à Beyrouth. Alors, c'est quand même assez difficile parce que par rapport à ce que disait Iman Jabour, qui quand même publie en arabe, on a une jauge évidemment presque à l'infini. En français, c'est quand même différent parce que les libraires, je pense à la librairie orientale, hein, Marouname, à la librairie Antoine, les chiffres qu'on donne des best-sellers, ça va vraiment, vous allez trouver ça alarmiste, mais en gros, un best-seller en anglais, c'est 300 pièces vendues, hein, quand même. En français, c'est 500. Et en arabe, à partir de 15 000. Donc, faut comprendre qu'il n'y a pas chez nous d'écrivains qui vraiment vivent de sa passion, de sa plume, même en faisant des piges dans un journal. C'est impossible. En général, tout le monde a un poste académique voilà, pour compléter un petit peu ça. Et ce que je voulais aussi dire, et je trouve que ça, c'est difficile, c'est que quand on publie un roman au Liban, je trouve qu'on est soutenu, mais les prix sont là aussi pour venir un peu mettre en lumière ce manque de visibilité. Donc après, pour la distribution à l'international, mais il faut en tout cas renforcer la chaîne du livre. Ça, c'est essentiel au Liban, notamment pour les auteurs francophones, parce que pour vivre de sa plume, et surtout que sa plume soit lue à l'international. Et du coup, l'idéal, et c'est ce que le libraire Michel Chouaïri a longtemps œuvré pour ça, justement, de pouvoir réunir tous les éditeurs francophones du Liban qui puissent fournir une dizaine, douzaine de titres par an à un distributeur français. Et du coup, on n'aurait plus une fuite des cerveaux, des grandes plumes, Maalouf et compagnie que tu as cité hier. Et on est obligé de publier. Peut-être que Diane, c'est peut-être pour ça que tu as voulu publier ensuite en France, pour justement pouvoir exister comme tous les écrivains justement francophones. Ou qu'est-ce qui t'a poussé en fait pardon, je pose une question là, je sors de mon rôle. Voilà, à
eh
ne
bien,
plus être.
Qu'est-ce qui m'a en fait c'est-à-dire que bon, déjà il y a une énorme différence entre le lectorat au Liban et en France, qui est beaucoup plus grand en France, et le lectorat au Liban français, qui est très petit, il est minuscule. Donc comme je le disais, ma première expérience ne m'a pas apporté quelque chose de, à part moi, ma satisfaction personnelle d'avoir fait quelque chose, ça ne m'a pas ouvert une porte en plus ou quoi que ce soit pour. Donc, je me suis dit que bon, je peux continuer à publier au Liban, très bien, mais déjà quand on écrit, on est seul. Donc là, vraiment, j'ai senti que je suis seule et je suis, disons, restée seule. Je n'ai pas eu d'autres, opportunités ou voilà, façon d'exister ou quoi. Donc, je me suis dit bon. Le deuxième, c'est aussi le premier parce que le premier c'était quelque chose d'assez graphique et ensuite il s'agissait d'un premier roman. Donc je l'ai envoyé à une dizaine d'éditeurs en France sans vraiment m'attendre à absolument quoi que ce soit. D'ailleurs j'avais le plan A, plan B, plan C, plan D. Je pensais même à la Suisse, la Belgique et le Canada. Et puis, bon, contre toute attente, j'ai eu la chance d'avoir eu deux réponses positives. Et donc, j'ai été en France. Et voilà. Mais moi, je ne sais pas. Moi, vraiment, mon expérience, c'est que je sens que, comme au Liban, même, enfin, Jabour a parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est vrai que le premier, on est soutenu par les amis, la famille. Mais bon, en France aussi, j'étais complètement, disons, c'était aussi la première fois. En France, en fait, c'est un autre système, c'est tout à fait un autre système. C'est un système qui donne plus de possibilités par la suite. Même s'il s'agit d'un premier roman, et on est tout aussi inconnu. C'est quand même c'est un autre système qu'au Liban, et peut-être parce qu'au Liban c'est le on est chez les francophones, je sais pas. C'est probablement qu'en arabe ça aurait été différent.
De quoi on parle là? Disons un livre, c'est partout la même chose. Les éditeurs francophones en dehors de la France, c'est-à-dire un Algérien, un Marocain ou un Libanais, ont un impact très local, très limité. Et un auteur francophone qui ne réussit pas à se faire éditer à Paris risque de rester en marge de tout cela. La maison d'édition L'Orient des Livres a fait un contrat avec Actes Sud, un accord en vertu duquel L'Orient des Livres importe à Beyrouth certains titres qu'ils trouvent quand même vendeurs ou à leur choix. Qu'est-ce qu'ils font? Disons, ils ont choisi mon roman. Le maximum qu'ils peuvent faire, c'est d'écouler à Beyrouth 700 exemplaires. Ce qui est bien pour Actes Sud, ce qui aide un peu, booste un peu quand même le choix de certains titres. Mais c'est tout. Le francophone libanais est circonscrit dans un petit ghetto. C'est le nombre d'abonnés ou de lecteurs de L'Orient le jour. Il y a des repères. Et à un moment donné, Lucien Georges avait fait quelque chose d'original. Il avait fait des accords avec des maisons d'édition françaises pour une édition libanaise du même livre sur un autre papier. Et ça s'était vendu un peu plus parce que c'était bien moins cher. Mais actuellement, les meilleures ventes chez Antoine, qu'on fait dans... ça ne dépassera jamais le millier. Bon, Sharif Majdalani, Amin Malouf, parfois certains, Alexandre Najjar peuvent vendre, mais ça ne va pas très loin. C'est pour cela que je comprends.
Vous êtes d'abord publié en arabe chez des bons éditeurs et après traduit notamment en français chez des bons éditeurs aussi. Je voudrais savoir, par rapport à votre expérience à l'un et l'autre qui peut être différente, comment vous percevez les différences de réception dans les deux langues, que ce soit au Liban, en France, ou dans les autres pays arabes. Les différences de réception, quantitativement, c'est une chose, mais aussi qualitativement. Comment vous êtes reçus, vos livres sont reçus, d'abord en arabe et dans le monde arabe, ensuite dans le monde francophone. Est-ce que vous pouvez préciser ça?
Seulement francophone, vous demandez. Oui, mais parce que j'étais traduit dans d'autres langues. Oui. Et je crois que c'est beaucoup plus facile dans le monde arabe pour nous. Parce que nous sommes connus à la fin. On a la même langue. Comme Majabour a dit, quand on fait un livre, il y a des articles qui viennent des pays arabes sur le livre. Pas seulement des pays arabes, il y a des arabes qui écrivent les critiques, qui habitent en Allemagne, en France, en Hollande. On reçoit aussi leurs articles dans les journaux. Il y a des journaux qui sont publiés à Londres, des journaux arabes aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous d'être connus dans le monde arabe, c'est très évident. Pour la traduction, mes livres, ils ont des expériences différentes dans chaque traduction. En France, le premier livre, Ville à Vif, a été très bien reçu, presque comme un arabe. Tandis que en Allemagne, c'est le deuxième livre qui a été bien reçu. C'était Meurier Sauvage. Meurier Sauvage parle de Liban 1920 et 30. Il paraît que les Allemands aiment cette image de Liban, le Liban agricole, le Liban qui était Irabi Doudelaz, qui élève le cocon de verre de soie. Et il a été très bien vendu, le deuxième, tandis qu'en France, c'était moins. Et le troisième, d'autres vies en France, elle a vendu beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est le goût de piller, je ne sais pas. Et aussi, peut-être, parce que dans une certaine période, la maison d'édition verticale a été vendue. Donc, aussi, la propriétaire a changé. Donc,
dans le monde arabe, l'un et l'autre, vous êtes beaucoup lu et critiqué, enfin selon des critiques littéraires, dans d'autres pays que le Liban. Et surtout, quel pays alors ? C'est quel pays ?
Il y a des échos. Il y a une bulle arabe qui se répand. Je reçois des revues de livres sur mes romans de partout. Plus arabe que libanais. Ça fonctionne en faveur de l'écriture en arabe. Il y a des supports culturels, littéraires, partout. Il y a les prix arabes, il y a les librairies, il y a les éditeurs, il y a les journaux, les journaux en ligne et les journaux papier. Ça amplifie le phénomène littéraire. Et, moi, je n'ai pas à me plaindre de l'écho arabe qui se fait. Sur le quartier américain, j'ai eu plus que 100 revues de livres, de partout. Ça venait de partout. J'ai trouvé, on m'a conseillé de faire une sorte de recherche Google. Google vous envoie votre nom accolé à l'actualité.
Alerte Google.
Alerte Google, voilà. Et là, tandis que, comme dit Iman, pour la traduction, c'est inégal. C'est inégal, c'est tantôt ça, tantôt ci, on ne sait pas. En tous les cas, la visibilité de la littérature arabe traduite n'est pas grande. En France, il se traduit une trentaine de titres par an. La moitié grâce à Farouk Mardembe dans Actes Sud. Et puis quelques maisons d'édition, ça et là, le Seuil en fait deux, le Vertical en fait deux, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grand-chose. Et ça, c'est un autre problème. La littérature arabe traduite, ça reste aussi lié à l'intérêt pour le monde arabe, aux attentes et tout.
Il ne reste pas moins que c'est la France qui traduit le plus de livres en arabe et étrangers. Hein. Il faut savoir qu'il y a des pays aux États-Unis, il y a très peu de traductions, hein, d'autres éditeurs le savent. Et puis il y a une chose aussi, quand vous dites 700 livres vendus à Beyrouth, pour certains auteurs en France, ce serait très très bien. Il faut savoir qu'il y a des livres, pour ça les comparaisons, il faut les faire quand même, il me semble. Hein. Là, j'ai une éditrice devant moi là, qui... pour en témoigner, il y a des livres en France, y compris dans des maisons comme Le Seuil ou Gallimard, qui se vendent à 200 ou 300 exemplaires. Donc, voilà, il faut relativiser aussi les choses.
Mais quand un livre traduit se vend à Beyrouth à 700 exemplaires, c'est qu'il a vendu 10 000 en arabe, déjà.
Je voulais, parce qu'on a beaucoup parlé du roman ces deux derniers jours et c'est bien normal, mais je voulais quand même attester d'une réalité de la littérature libanaise aujourd'hui, en tout cas venant de jeunes. Et Diane en a parlé des romans illustratifs, l'illustration a mêlé à l'écriture. Et je voulais signaler justement l'essor de cette littérature. On a quand même Mazen Karbaj, on a Zena Abi Rached, dont tu as parlé hier, et qui sont un peu dans la lignée que vous connaissez, donc de l'œuvre iranienne de Marjan Satrapi. Et donc c'est intéressant aussi de lire leurs œuvres. Voilà.
On va peut-être. Tu veux qu'on passe la parole
Juste si tu permets, Cathy, c'était pas prévu initialement parce qu'on pensait pas qu'il serait là. Vu qu'on a parlé de la vie culturelle, on aurait peut-être pu demander à ceux qui sont sur le cinéma deux choses. Donc, Dima, elle est là. Je sais pas si Maher est là. De nous dire en gros qu'est-ce qu'il en est de la création cinématographique contemporaine libanaise et des problèmes de diffusion au Liban ou ailleurs. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez rapidement dire deux, trois choses à ce sujet, parce que on n'a pas évoqué le cinéma, c'était pas initialement prévu. Donc,
une question à poser.
Bonjour. J'ai pris mon temps dans le lit. Et je suis arrivé là, j'ai senti que le ministre de Tourisme qui peut financer cette débat. Excusez-moi de vous dire ça. Mais ok, c'est peut-être, il y a plein de choses qui se passent à Beyrouth, c'est normal. Mais ils ont parlé de littérature, surtout de livres. Ce qui est, ça reste pour moi, je connais par rapport à mon frère aussi qu'il écrit des romans. Je connais plein de gens qui écrivent des romans. Ça reste comme un travail. Oui, ça veut dire quoi? On peut dire oui. Un passe-temps, parce que réellement, ce n'est pas une possibilité vraiment de survivre de ce travail. Et c'est peu continuer plus facilement que d'autres métiers dans l'art. Dans les métiers, ça veut dire du cinéma ou de photographe. Ou de... Parce que vous écrivez seul. Et ce qui est assez intéressant, que j'ai envie d'ouvrir, c'est l'idée comment on cherche l'argent pour financer nos films. Notre travail artistique, c'est pas seulement du cinéma. Ce qui est un vrai problème, c'est que l'argent, il faut chercher ailleurs. L'argent, il faut chercher dans l'Occident. L'argent, l'Occident, ça veut dire, il faut prendre des comptes, comme mon producteur, il m'a dit à l'époque, que je fais mon film, je produis ton film parce que pour mon public, il faut prendre des comptes, mon public, qui fait que quand on fait un sujet, ça veut dire, pour trouver de l'argent, il faut prendre des comptes, comment ça passe politiquement, artistiquement, prendre des comptes l'autre qui est, moi personnellement, quand je pense l'art, je pense à écrire ou à faire d'un film, je pense par rapport à des personnes que je filme. Ça veut dire, j'ai fait un débat, j'ai fait un bagarre, un conflit avec le personnage que je filme, avec le lieu où je tourne. Et réellement, petit à petit, on est obligé, quelque part, ça, il faut battre, ça ne veut pas dire qu'on fait toujours, mais il faut prendre en compte, prendre le film, faire pour le public qui ne comprenne pas grand-chose sur le sujet, il faut prendre... Et ça, ça fait un compromis qui est assez fort, et qui fait que, aujourd'hui, les musées, l'art qui existe au Liban, tout ça devient privatisé. C'est comme le truc des associations de humanitaires, réellement. Ça veut dire on attend l'argent qui remplace l'État. Il vient une fondation, une association étrangère, il vient là pour occuper des problèmes de l'eau. Et avec les financements de je ne sais pas où, qui vient pour occuper de l'histoire de l'eau dans un village. Réellement, ça marche la même chose. Ça veut dire qu'il remplace l'État et on est content. Oui, ça devient cette fondation. Et c'est ce qui est à long terme. C'est vrai que la fondation ou l'argent qui vient de l'extérieur pour l'art ou pour d'autres choses, c'est vrai qu'il ne demande pas quelque chose de précis en direct. Mais réellement, après, c'est une censure, c'est un travail en soi-même. On va faire attention à comment on peut avoir les financements d'après. Ça veut dire qu'on est soumis sur cette logique de l'argent qui vient d'ailleurs, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut... Je ne sais pas si c'est un peu clair. Pas seulement, j'ai amené l'argent de Finlande. Oui, mais c'est fondations privées qui ont lié au pays lui-même. Ce n'est pas une fondation qui va venir de Finlande et de prendre en compte de l'argent d'ailleurs. C'est complètement différent par rapport. C'est quelque chose qui produit comme aussi il y a de sociétés internes qui peuvent être au Liban privées, même si j'ai un problème avec les privés par rapport à des choses publiques, qui est l'école, qui est l'eau, qui est des choses principales, mais qu'il y a quand même, il n'y a pas, on est en train de remplacer l'État par des fondations qui viennent de l'étranger et qui vont remplacer, qui vont voir leur point de vue vers la manière comment on est foutu.
Bah moi, je vais juste rebondir un peu sur ce que Maher a dit. Moi, j'ai fait des courts-métrages avec la France. J'ai fait un long-métrage aussi qui a été financé par la France. Moi, En fait, j'ai pas senti ce dont Maher parle, la censure. C'est vrai qu'on peut tomber parfois dans le regard occidental, ce que l'Occident veut voir aussi du cinéma venant des pays arabes. Ça, c'est vrai, mais parfois aussi, on peut contourner tout ça. Moi, j'ai déposé mon premier long métrage au CNC, et j'ai pas eu ce sentiment que les gens attendent une image précise. Comme il y a en fait deux genres de financement qui proviennent de la France, c'est ou bien le CNC qui finance comme si c'était un film français. Donc,
Non, ça,
moi, je parle du public ici en France. Donc, tout l'argent, presque tous les films d'auteurs libanais ont été financés par la France. Donc, on a deux sources de financement qui peuvent venir de la France, du CNC notamment, qui sont ou bien on est financé comme le cinéma du monde, ou qui s'appelait avant le Fonds Sud. Et donc là, on peut tomber aussi dans peut-être un regard occidental, ce que l'Occident veut voir de ce cinéma qui provient du Sud, ou bien si on dépose comme si c'était un film français, on est obligé là de faire un film au Liban, pas au Liban, mais un film avec la majorité de langue française, à 51% de langue française. Et là, ça devient moins... ils cherchent moins ce regard exotique dont Maher parle. Donc moi, le premier long métrage que j'ai fait avec la France, c'était financé par comme si c'était un film français. Donc j'ai pas senti ce que Maher a senti, ce regard sur l'exotisme, cette censure. J'ai écrit le film que je voulais faire. La seule condition, c'était que les personnages parlent majoritairement en français. Ça, c'était une condition que j'ai pu contourner. On a des gens parfaitement francophones, qu'on mélange tous l'arabe et le français. Donc, presque tous les films libanais sont financés, notamment donc, à travers le CNC, à travers aussi la télévision française. Là, ça devient beaucoup moins... beaucoup moins présente ces temps-ci. Et on a en moyenne entre un et deux longs métrages qui se font par année au Liban. Là, je parle juste de la fiction. Mais on a une grande scène d'activité de artistique qui a été relevée. Il y a une grande... activités aussi de vidéos qui sont faites. Comme il n'y a pas d'argent national qui vient, donc on a aussi des associations qui ont apparu là les 10 dernières années des pays du Golfe. Donc pas plus. Mais il y a aussi une scène là qu'on a commencé à voir aussi, c'est les films commerciaux qui se font à 100% libanais avec des tout petits budgets. Ce sont des films de comédie très, très populaires qui marchent extrêmement bien dans les salles au Liban et qui restent très, très locaux. Tandis que le cinéma d'auteur libanais, il est partout dans les festivals, il est dans les grands festivals, à Cannes, à Venise, à Locarno. Et c'est un cinéma qui reste très limité dans les salles libanaises. Ça veut dire... si un film marche d'auteur, il y a 1000 personnes au plus qui le voient. 1000 entrées. Tandis qu'un film populaire libanais qui est fait sur place avec une petite comédie, c'est entre 150 et 200 000 entrées. Donc on voit vraiment bien la différence. Donc on n'a pas vraiment le public pour ça, pour les films d'auteur libanais. Il y a une salle qui s'appelle Métropolis, qui fête ses 10 années dans quelques jours, qui a ouvert en 2006, Et Metropolis a fait un travail vraiment remarquable, parce que le cinéma libanais est resté quand même un peu étranger au regard des Libanais, comme on rejetait toujours ce cinéma. Parce que le cinéma d'auteur, durant toutes les années de guerre et qui ont suivi, on parlait souvent de la guerre. Et c'est un thème qui a été rejeté par le public. On ne voulait pas revenir là-dessus, on ne voulait plus parler de la guerre, on voulait escamoter toute cette période. Donc on cherchait à voir des films américains, des films qui font oublier la période dure de ce pays. Donc on a, et ce que a fait donc Metropolis, c'est revenir sur reprojeter les films de ce pays qui n'ont jamais été vus, donner un nouveau regard ou proposer un nouveau regard de ce cinéma local qui était méconnu des Libanais eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils ont un projet d'ouvrir ou de construire en fait une cinémathèque. Donc c'est en cours en ce moment, une cinémathèque d'archivage aussi, parce qu'on a, un vrai problème d'archivage. Quand j'ai fait le travail que j'ai fait sur le cinéma libanais pour ma thèse, j'ai été au ministère de la Culture pour chercher des archives, et c'est inexistant, ça n'existe pas, il n'y a pas d'archives. Ils m'ont fait rentrer dans la salle de visionnage. La pellicule est par terre, la pellicule est rouillée, la pellicule est, il y a l'humidité qui coulait du plafond, tout était par terre, il n'y a aucune notion d'archivage. C'est comme si le passé, on s'en fout. Et donc c'est ce que la Cinémathèque, une partie va faire aussi ce travail.
Ouais, après moi j'essaie de parler par rapport à tout, à une logique qui est, c'est pas seulement par rapport à mon expérience. J'ai une expérience, je veux pas l'histoire de raconter des premiers films que j'ai fait ici en France jusqu'à aujourd'hui. Il y a des expériences que j'ai vécues, mais je parle au-delà de ça, c'est pas seulement par rapport à mon expérience personnelle, ça veut dire du cinéma même. Je parle d'une logique qui règne dans le Liban comme le tiers-monde en général. Cette logique qu'on remplace notre demande, notre révolte contre les systèmes qui existent chez nous par de l'argent des fondations qui viennent de l'extérieur, et on vivre comme c'est ça les solutions. Et je trouve que ça, c'est quand on parle de tout ce qu'on a parlé par rapport à l'histoire du musée, nanani, nanana, c'est quelque chose qui est comme ça vient du ciel. C'est pas quelque chose qui est en train de produire et quelque chose qui soit stable par rapport à la vie culturelle libanaise ou culturelle qui existe dans la région. Seulement, j'ajoute une chose, que s'il y a quelque chose d'intéressant, il y a 1,5 million de réfugiés syriens qui a ouvert d'autres choses aujourd'hui par rapport à la culture, le théâtre, le cinéma et d'autres choses, et le vidéo et plein de choses qui nourrit cette manière, cette culture, cette vie culturelle réellement au Liban qui vient vraiment en richesse, parce que c'est le Liban avec l'histoire de la Syrie, c'était les militaires ou les travailleurs. Aujourd'hui, il y avait d'autres choses. Et ça produit une vie culturelle assez riche au Liban. Et ça nous fait ouvrir un peu de notre tête, de sortir de cette histoire aussi de les Libans. C'est vraiment, c'est quelque chose. Et les écrivains aussi, ils sont plus, parce que quand ils écrivent, tout le monde les lit. C'est ce qui est différent dans les cinémas, dans le truc, parce que c'est dans le même théâtre, c'était difficile de le passer en Syrie. En Syrie, ailleurs dans le monde arabe, les films et ça, c'est aujourd'hui, c'est assez riche dans le société, ça veut dire dans le milieu culturel libanais, c'est d'existence de Syriens avec les théâtres, avec de...
Comment terminer, si vous voulez, sur un exemple. Le ministre de la Culture qu'on connaît, qui est un monsieur qui accepte toutes les initiatives et essaie de... il a voulu faire un prix du roman libanais, 10 000 dollars. Eh bien, il a dû avoir recours à un riche ami à lui, qui a accepté de financer ça sur quelques années à venir. L'État n'a pas pu débourser, n'a pas pu trouver 10 000, disons 20 000, 30 000 dollars avec la logistique pour cela. Bon, c'est pour vous donner une idée que, comme quoi, il ne faut rien attendre de ce côté.
Je voudrais dire un seul mot. Tout va bien. OK. ne soyez pas fâchés, je ne prends pas, mais je veux voir un jour le cinéma libanais fondé localement, je veux voir un jour les galeries libanais fondées localement, et je veux voir un jour les musées fondés localement. Ça, c'est mon rêve, c'est tout. Merci.